Aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille Binette Paiement. Ce portrait-là, donc, c'est Carole Paiement, qui est la maman de Catherine Binette, qui, suite à un accident en 2013, vit maintenant avec les séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral. Et pour les bénéfices de l'émission aujourd'hui, on va dire TCC, hein, parce que traumatisme crânio-cérébral, ben, c'est un petit peu long, vous allez comprendre avec cette abréviation-là. L'émission, comme toujours, elle s'est construite autour du parcours, autour des préoccupations de Catherine et de Carole. Merci d'être là. C'est la deuxième fois que je reçois un duo mère-fille. Je suis très, très contente de vous avoir ici en studio. Votre photo, votre portrait de famille circule déjà en ce moment sur nos médias sociaux, sur notre réseau. On vous y voit avant l'accident de Catherine. On va reparler de cet accident-là, bien sûr. Peu de temps avant, je pense. Qui a choisi cette photo-là?
C'est moi qui l'ai choisie.
Et pourquoi?
Ben, parce que c'était une petite photo un peu coup de cœur du fait que c'était tout juste de un mois et demi à peu près avant l'accident de Catherine. Et c'était un beau moment dans la vie de Catherine. Elle venait de recevoir ses ailes de Sunwing. Et c'était ben, une fierté pour elle et c'était une fierté pour moi. Ma fille, elle prenait sa vie en main. Puis, ben, c'est sûr que là, je veux dire, elle venait de recevoir ses ailes puis elle prenait son envol. Là. Ça en est presque un jeu de mots, mais c'était un beau moment.
Catherine, je vois ton sourire. Tu es encore très fière de ça, hein?
Oui, ben c'est sûr que je peux pas le nier. Ça fait partie de ma vie.
Est-ce que tu t'en rappelles?
Aucunement.
Ouais. On va y revenir à ça parce qu'on va mettre en contexte, oui, cet accident qui est arrivé en 2013, 10 janvier 2013. Carole, vous avez reçu l'appel 22h30 que aucun parent ne veut recevoir dans sa vie.
Absolument. Savoir que la vie de ta fille tient seulement que par un fil.
28 fils.
Ben, 28 fils, en fait, oui, effectivement. Savoir que, c'est ça, il faut que tu ailles à son chevet le plus rapidement possible. C'est vraiment l'appel que personne. On peut même pas souhaiter ça à son pire ennemi.
Oui, la vie bascule. L'accident s'est passé du côté de Winnipeg. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, Catherine, bon, qui avait eu ses ailes, est agent de bord, est envoyée à Winnipeg pour effectuer des vols de Winnipeg vers les Caraïbes. Et entre deux vols, elle et une collègue décident d'aller en bordure de la route à pied pour aller chercher un café chez Tim Hortons, un semi-remorque dont ses vitres étaient trop sales, les a pas vues, les a frappées de plein fouet. Mm-hmm. Alors, sur le moment, Catherine est sombrée dans un coma très profond, traumatisme crânien très sévère, transporté au Science Health Center de Winnipeg. On nous appelle, se rend à son chevet le plus rapidement possible. Les chances de survie de Catherine sont nulles.
Oui. Une fois arrivée à l'hôpital même, on vous dira quelles étaient... On vous pose la question, quelles étaient les dernières volontés de votre fille? Vous avez une réponse quand même assez claire à cette question, Carole.
Effectivement, parce que Catherine, au moment de l'accident, n'avait que 22 ans. Alors, quand on m'a posé la question, moi, quelles étaient les dernières volontés de Catherine, ben, moi, j'ai répondu qu'à 22 ans, ses dernières volontés, c'était de vivre et d'avoir du plaisir dans la vie. Là.
Oui. Quand même, et on le dit, 28 fils qui la tiennent en vie, un état végétatif, une mort clinique. On peut redouter plusieurs séquelles. L'équipe médicale vous dit qu'il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Ses capacités respiratoires ne sont qu'à 3 %. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous dit non, il n'est pas question que je débranche ma fille?
Mais je trouvais que c'était pas à nous de prendre la décision, ni aux médecins. C'est un être humain, c'est son corps qui décide, son corps, sa tête, tout ça qui fait que c'est à elle de décider si elle va vivre ou pas. Son corps va se battre ou va pas se battre. Je trouvais que la décision ne nous revenait pas ni aux médecins, ni à moi, son père non plus, là, personne de la famille. Là. C'était pas à nous de décider si Catherine devait vivre ou non.
Vous vous disiez que c'était à Catherine de décider ou plutôt à la vie de le faire?
Je pense que les deux réponses sont bien à Catherine, à la vie, mais je pense que c'était à Catherine. Son corps allait décider si elle voulait se battre ou non. Moi, j'étais persuadée que malgré son coma profond, Catherine nous entendait. Alors, on lui disait de se battre.
Mm-hmm. Catherine, tu en penses quoi après, près de plusieurs années là, après l'accident, tu en penses quoi de cette décision-là?
Mais visiblement, vu que j'étais encore en vie, je trouve que c'est une bonne décision, c'est un bon choix et j'approuve totalement. Mais même moi, avoir été dans la situation pour avoir une décision à prendre, j'aurais été mêlée,
ouais.
J'aurais pas su quoi faire.
Et il y a eu, et on va y revenir, il y a eu des moments dans ta réadaptation où peut-être que tu aurais voulu que les décisions se prennent différemment en moment de découragement.
Une fois.
Une fois.
Seulement.
Une fois seulement.
Ouais.
Sinon, tu as toujours été pas mal contente de cette décision-là que ta mère et ton père ont pu prendre. Justement, je veux en parler de ça, d'être mêlée par rapport aux décisions. L'équipe médicale, parce qu'on n'est pas médecin, on est un parent, on fait autre chose dans la vie. On arrive dans un centre de traumatologie avec des équipes médicales et on n'y comprend rien. Comment on arrive à se dépatouiller là-dedans, Carole?
C'est pas rien.
Au départ en anglais, en plus?
Au départ en anglais. Heureusement, mon conjoint Luc, il est parfaitement bilingue, mais malgré tout, c'est des termes médicaux qu'on ne comprend pas en français. Alors, encore moins en anglais. C'est sûr que se faire dire « ta fille a un traumatisme crânien très sévère », on ne sait pas ce que c'est. Tous les termes qu'ils emploient pour les bobos qu'elle a, finalement, on ne les comprend pas tous. Fait qu'on essaie de fouiller sur Internet. Internet nous aide à, ouais, comprendre tout ce qui en est. On fait des recherches, puis on y va une journée à la fois.
Est-ce qu'il y a ce désir-là de comprendre ce qui se passe, que tel fil, tel tube permet de faire ça, ou on préfère pas savoir?
Non, on veut tout savoir. Au contraire, ouais, on veut tout savoir à quoi elle est reliée, qu'est-ce qui la maintient comme ça, quand ils nous disent des séquelles possibles majeures. Là, on veut savoir c'est quoi les fissures dans le crâne, qu'est-ce que ça fait que ça soit rempli de liquide. On veut tout savoir pourquoi, qu'est-ce que ça fait que sa température soit si haute, qu'est-ce que ça fait les battements de cœur. On veut tout savoir.
Pour prendre, j'imagine, les meilleures décisions possibles.
Ben, je crois que c'est pour être capable de suivre, finalement.
Ouais.
De suivre ce qui se passe le plus... Puis on avait juste ça à faire, de toute façon.
Ouais. Oui, la vie, votre vie, celle de votre conjoint, du père de Catherine, de sa conjointe à lui, s'est arrêtée pendant, bon, les 23 jours de coma et par la suite, tout ce qui a trait à la réadaptation.
Oui, notre vie s'est complètement arrêtée. Arrêtée de travailler, arrêtée de tout. Le temps qu'on est allé, qu'on était avec Catherine à Winnipeg, on était avec elle sans cesse. Son père Charles et sa conjointe Brigitte. Puis il y avait Luc et moi aussi qui étaient là. On était les quatre ensemble tout le temps. Alors, notre travail du matin au soir, c'était de surveiller toutes les machines qui bipaient, ouais, et qui savoir qu'est-ce que c'était, puis suivre les explications.
Et parfois aussi de suivre les prises de décision des spécialistes de la santé. Dernière question avant la prochaine entrevue. Catherine, à partir de quel moment, toi, tu as commencé à te rappeler de quelque chose?
Mes souvenirs, ils remontent autour du 10 mars, pas avant.
OK. Donc là, on parle
deux mois après.
Deux mois après l'accident. Deuxième partie de cette émission, toujours avec Carole Paiement et Catherine Binette. Et je vous rappelle un petit peu ce qui nous attend. Tout à l'heure, Isabelle Ducharme, elle, présidente du conseil d'administration de l'organisme Kéroul, sera là pour nous parler de loisirs et de culture et de tourisme, en fait, surtout, parce qu'on a deux passionnés de voyage ici avec nous. Loisirs accessibles, hein, pour des personnes qui vivent en situation de handicap. Et également Eduardo Cisneros, lui qui est neuropsychologue du côté du centre de réadaptation. Lucie Bruno nous parlera des deuils, des obstacles, des défis que peuvent rencontrer une personne qui a subi un TCC et également ses proches, hein, qui sont étroitement liés à ce processus-là. Mais avant, on continue cette discussion avec Carole et Catherine. J'ai envie d'aborder avec vous, Carole, la parution de ce livre-là à la fin de l'été, fin août 2016, donc « Débrancher Catherine ». Et vous savez, moi, j'aurais un autre titre à vous proposer. Tenir tête. Parce qu'il y a tenir tête à la vie, tenir tête, on en parlait tout à l'heure, à l'équipe médicale là, qui nous dit « votre fille, vous êtes mieux de la débrancher ». Tenir tête aussi à sa propre tête pour Catherine qui parfois a à vivre avec ce changement-là. Pourquoi l'écriture de ce livre-là? Pourquoi c'était nécessaire pour vous?
Je sais pas trop, en fait, pourquoi c'était nécessaire pour moi. D'abord, j'avais tout noté depuis le début dans un cahier tous les jours parce que, étant en choc, on oubliait le nom des médecins, le nom des médicaments. On voulait faire un suivi de plus près. Donc, j'écrivais tout, tous les jours de ce qui se passait. J'ai voulu, de prime abord, mettre ça au propre. Donc, le mettre sur mon laptop, tout simplement. Et suite à ça, je trouvais que j'avais tellement de contenu que je trouvais que j'étais capable d'écrire quelque chose avec ça. Et plusieurs gens me le proposaient. « Ah, tu devrais écrire l'histoire de Catherine et tout ça. » Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Garde, tu devrais vraiment écrire un livre. » À partir de ce moment-là, j'ai commencé l'écriture du livre. Puis je voulais... tu sais, quand Catherine a eu son accident, moi, j'avais 50 amis Facebook. Et en quelques jours, je tombais au plus de 600 amis Facebook. Tout le monde me suivait versus mon Facebook. Partout dans ma région, moi, les gens me connaissent beaucoup. Je suis bien connue par chez nous. Alors, tout le monde était au courant de l'histoire de Catherine. Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, aussi de ça, c'est offrir à ces gens-là un résumé, mais un résumé complet, mais de oui. tout ce qu'on a vécu ensemble, parce que ces gens-là m'ont soutenu pendant oui. tout ce temps-là. Alors, leur offrir d'amener à la maison, d'avoir à la maison, enfin, un souvenir de ces années-là qu'on a vécu ensemble.
Catherine, tu l'as lu, ce livre-là?
Ben, en fait, Carole me l'a lu en l'écrivant.
OK. Ça t'a fait quoi d'entendre ce qui s'est passé pendant que tu étais dans le coma, de voir la réadaptation?
C'est bizarre comme sentiment, là, mais j'avais l'impression de me faire lire l'histoire de quelqu'un d'autre.
Ah oui, hein?
J'avais pas l'impression, parce que on a une mémoire sélective, hein? Puis on se rappelle bien ce qu'on veut se rappeler, puis on oublie ce qu'on veut oublier. Cette partie-là de ma vie, je l'ai oubliée. Alors, quand elle me l'a lu, j'avais pas l'impression de me faire raconter mon histoire. J'avais vraiment l'impression d'entendre l'histoire de la quatrième voisine de la huitième rue. Là.
Ouais. C'était dur à croire que ça pouvait t'avoir arrivé à toi, à ta famille. On en a parlé tout à l'heure, brièvement, trop brièvement, avec Claudette Guilmaine, l'importance des proches. Il y a eu les proches éloignés, c'est-à-dire la communauté, le boucher à l'épicerie, les gens qui venaient vous voir au restaurant pour vous dire « l'histoire me touche ». Mais vous êtes une famille, Carole, extrêmement unie aussi. Et il y a eu le fait d'être quatre. Votre conjoint, Luc, est d'ailleurs en régie. On le salue. Charles, le papa de Catherine, Brigitte, toutes ces personnes-là, votre père à vous aussi, ça a aidé aussi à vous soutenir et à passer à travers.
Mais on avait besoin de ces gens-là. Oui, effectivement, on est une famille unie de prime abord, mais oui, on avait besoin de tous ces gens-là autour de nous. Là. C'est ça qui nous a aidés à passer à travers tout ça, le soutien de ces gens-là.
Oui, Catherine?
Mais moi aussi, ça m'a aidé de les voir tellement unis, tellement solides, que je me suis dit... sont toutes là, les quatre, pour moi, j'ai pas le droit de laisser tomber.
Oui. Et même encore, ils le sont. Vous allez faire du Zumba, je pense, avec Brigitte.
Ouais.
Ça continue. Une autre chose qui vous a aidé à vous en sortir, je pense, surtout pendant que Catherine était à l'hôpital, Carole, c'est la croyance. La croyance en un être quelque part qui vous écoutait, qui écoutait vos demandes.
En fait, je peux pas dire qu'au niveau de la religion, là, je suis la plus pratiquante, là, parce que j'en ai voulu au bon Dieu de ne pas avoir été là pour protéger ma fille. Donc, ça m'a déstabilisé un petit peu à ce niveau-là. Par contre, faut que je te raconte que dans notre région, il y a une jeune fille de l'âge de Catherine qui s'est suicidée en se jetant en bas d'un pylône. Et cette petite fille-là, à chaque fois que je passais devant le pylône, je m'arrêtais pour lui parler parce que je l'ai appelée Angie pour mon ange, dans le fond, parce que c'était un ange. Puis je lui ai, tu sais, au début, je lui dis, Angie, toi, tu as fait le choix, mais ma Catherine n'a pas fait le choix de s'enlever la vie. Tu sais, fait qu'elle, elle veut vivre. Alors maintenant que tu es un ange, aide ma Catherine. Et à tous les jours, je lui parlais et je m'accrochais à cette Angie dont je parle encore. Là. Même après tout ce temps-là, là, je passe sur l'autoroute et je parle à ma Angie. Et après avoir lu le livre, il y a des gens qui s'arrêtent et qui parlent à ma belle Angie.
Ouais.
Mais tu sais que je ne sais pas son nom et je ne veux pas le savoir.
Ouais. On sait seulement... Et c'est un passage du livre qui est extrêmement touchant, Carole. Catherine, maintenant, la vie continue.
Ouais.
Tu as vécu des étapes de réadaptation. Ça ressemblait à quoi, les étapes, les apprentissages?
En fait, je me suis allégée, dans le fond, la tâche en me disant « Tout le monde se lève le matin, un va faire de la comptabilité, l'autre est serveuse du restaurant. »
L'autre fait de la radio.
Oui, c'est ça, l'autre fait de la radio. Mais moi, mon travail quotidien, c'était la réadaptation. Parce que j'avais congé les week-ends.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dans le fond, c'était 5 jours comme un job.
Ouais, ouais.
Dans le fond, ça m'a aidé un peu à trouver ça moins lourd parce que je travaillais plus. Fait que dans le fond, la réadaptation, c'était mon principal travail.
Oui.
Je l'ai juste un jour à la fois. Puis...
T'aurais appris à manger, t'aurais appris
tout.
À marcher. Oui, c'est
tout,
ça.
Tout.
Qu'est-ce qui a été difficile là-dedans? Est-ce que ça a été difficile?
Ça a pas été difficile parce que j'étais pas tout à fait consciente. En fait, j'étais consciente, oui, mais je prenais pas conscience de ce pourquoi je travaillais fort.
Ouais, ouais. Il reste des défis. Tu continues à travailler fort. On va en parler à l'instant avec Eduardo Cisneros.